Radio Kapi.
À la une, cette polémique autour des fonds mis à la disposition du ministère de l'EPST pour l'organisation du tournoi interscolaire. L'inspecteur général des finances parle d'environ 400 000 dollars mal justifiés, mais le cabinet du ministre de l'EPST parle d'un acharnement contre Tony Mwaba. Conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga, assise tenue ce week-end à Goma. Le ministre de l'Industrie préconise l'allocation de 9 à 10 millions de dollars pour chaque budget pour la gestion des volcans. Nous faisons le point dans ce journal. Et puis, l'invité de ce matin, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de développement. Il vient d'effectuer sa première mission en Ituri depuis sa prise de fonction il y a 2 semaines. Il nous parle de son constat sur place. Madame, messieurs, bonjour. Près de 400 000 dollars américains mal justifiés, fonds mis à la disposition du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, pour l'organisation du tournoi interscolaire. C'est ce que dénonce l'inspecteur général des finances dans une vidéo qui circule sur la toile. Jules Alinguete parle de traficotage des factures dans l'allocation des bus Transco et de l'impression des t-shirts destinés pour ce tournoi. Jules Alinguete dans cet extrait choisi par Paul Matendo Mayamba.
Il y a eu près de 400 000 dollars qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 dollars encore remis au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 dollars payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'elle n'a reçu que 16 000 dollars. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. Là aussi, le fournisseur a décrié le comportement des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10.
En réaction aux propos de l'inspecteur général des finances, le cabinet du ministre de l'EPST parle d'un acharnement contre Tony Mwaba. Dans un communiqué parvenu à Radio Kapi hier, la cellule de communication précise que s'agissant de l'allocation des bus Transco, 60 000 dollars étaient débloqués et non 120 000 au sujet de l'impression des t-shirts, y compris des képis, badges, bâches. Le montant alloué était de 62 000 dollars et non 82 000 dollars comme le souligne l'IGF. Dans l'actualité aussi, l'arrivée ce week-end à Kinshasa d'une mission des Nations Unies sur demande de la CENI, la délégation de la division de l'assistance électorale des Nations Unies est venue de New York pour évaluer et examiner les modalités d'un appui éventuel de l'ONU pour la bonne tenue des élections à venir. Pierrot Elamenji nous en dit plus.
Il faudra définir certains préalables pour que la mission atteigne parfaitement ses objectifs. Voilà pourquoi l'équipe onusienne va commencer par évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral en RDC, comprendre le cadre juridique et institutionnel régissant le processus électoral. Une fois ce diagnostic établi, les capacités et les besoins des différents acteurs électoraux seront ainsi mieux connus et l'assistance onusienne mieux définie. Pour ce faire, deux réunions seront organisées avec un large éventail d'interlocuteurs des forces vives en RDC. C'est notamment un échantillon d'acteurs électoraux issus du système des Nations Unies, des autorités gouvernementales et électorales, des partis politiques, mais aussi les médias, la société civile ainsi que les missions diplomatiques accréditées.
Je vous disais en titre, la surveillance et la gestion des risques volcaniques dans la région des Virunga recommandent la mise en place d'un plan de contingence. Ce point inscrit dans le programme de la Conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga a été largement débattu dès la première journée de cette rencontre qui s'est tenue ce week-end à Goma. Des intervenants comme le ministre de l'Industrie préconisent l'allocation de 9 à 10 millions de dollars pour chaque budget pour la gestion des volcans. Une synthèse de ces échanges sur le plan de contingence avec Mathieu Ilunga.
Lors des travaux en panel, les échanges ont particulièrement mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un plan de contingence qui mettra en exergue une structure stratégique et opérative qui contribuera à contrôler les situations d'urgence et à minimiser les conséquences négatives. Ce plan de contingence existe et la RDC s'apprête à apposer sa signature à l'image de certains pays voisins comme le Rwanda, révèle le ministre José Mpandakabang.
Ce document-là a déjà été signé notamment par le Rwanda, mais nous, la RDC, depuis 2008, on ne l'a pas encore signé. C'est ainsi que le gouvernement a décidé que cette fois-ci, nous puissions arriver à atterrir avec ce plan de contingence. Et ça se fera. Tous les pays de la sous-région puissent avoir un seul document unique qui permettra que quand il y a éruption, comment il faut arriver à sécuriser la population. C'est un document de référence qui permet à ce que tout le monde s'y réfère pour gérer la sécurisation de la population avant, après, quand il y a éruption, pour que nous ayons la même lecture de la gestion de la population.
Sachez que d'autres intervenants à cet échange ont estimé que la mise sur pied d'un plan de contingence constitue un investissement à long terme, d'où la nécessité d'y consacrer du temps et de l'argent pour garantir que la surveillance des volcans est entre de bonnes mains. Mathieu Ilunga, Goma, Radio Okapi.
Situation des ressortissants de la RDC en Ukraine. Notez que le gouvernement congolais a mis en place un collectif d'avocats polonais en vue de mener des démarches de régularisation du séjour des étudiants congolais venus d'Ukraine et assurer leur inscription dans les universités polonaises, question de leur permettre de poursuivre leurs études. Selon le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire, qui est en mission sur place en Pologne, environ 200 étudiants congolais sont concernés par ces démarches. Hubert Tetik affirme que le gouvernement congolais prend en charge ses étudiants pendant 3 mois. On écoute Hubert Tetik, directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, joint par Pierrot et Lamengi.
Nous avions d'ailleurs convenu hier à notre ambassade avec le conseil diplomatique du premier ministre polonais de demander à tous ses compatriotes de converger vers la ville de Lviv, d'où le gouvernement polonais assurera leur transfert vers la Pologne. Quant à ceux qui sont déjà sur place en Pologne, après avoir remarqué que 95% de ces groupes sont tous étudiants et qu'ils n'ont qu'un seul souhait, qui est celui de continuer leurs études. Nous essayons donc de négocier l'octroi aux Congolais, étudiants, des permis de séjour à titre humanitaire, comme on le fait par exemple pour les malades. Nous avions bénéficié d'une oreille attentive de la part du conseil diplomatique du premier ministre polonais. C'est ainsi qu'en attendant, nous avions mis en place un collectif d'avocats polonais pour suivre ces démarches de régularisation et nous essayons de subvenir aussi aux besoins de ces étudiants au moins pendant 3 mois en termes de loyer, transport, survie et forfait pour les biens qu'ils ont perdus.
Et pour les autres étudiants congolais qui sont encore en Ukraine, Hubert Tetika indique que le gouvernement polonais leur demande de rejoindre la ville d'Elviv, à partir de laquelle ils seront rapatriés en Pologne. Il indique par ailleurs que 12 des étudiants congolais sont revenus vendredi soir de Belgique afin d'être intégrés dans ces démarches, mais la Belgique a refusé leur demande de poursuivre les études universitaires sur son sol, leur statut d'étudiant n'étant pas automatiquement reconnu, contrairement aux étudiants ukrainiens. Rendons-nous en Ituri. Plus de 20 000 enfants des déplacés ne vont pas à l'école aux différents sites des déplacés de Boulé, environ 90 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon leurs parents, c'est par manque de moyens de survie, ce qui pousse les enfants à entreprendre des travaux journaliers au sein des communautés locales. Ces parents l'ont dit à l'occasion de la visite samedi du représentant spécial adjoint en charge des affaires humanitaires et de développement. Ils plaident notamment pour la construction des hangars au site pour servir des salles des classes. Isaac Remoyope nous fait le point.
Les sites de Lala, Savo et Chukpa sont composés d'environ 60 000 déplacés, dont la moitié sont des enfants en âge scolaire. Cependant, moins de 20% fréquentent l'école en dehors des sites à au moins 3 km. La plupart qui se disent affamés fuient les cours pour quémander ou marauder au centre commercial des Boulets. La majorité des enfants aident leurs parents dans les travaux journaliers, cultiver des champs ou puiser de l'eau, moyennant 200 à 1500 francs congolais par jour, qui les aident pour la survie. Une mère témoigne.
On leur donne 1500 francs si tu fais moins 3 mètres sur 15 mètres. Nous avons même les affins pour puiser des peu d'eau au niveau du centre pour qu'on ait même 10 affins par bidon. C'est comme ça qu'elle vit. Les gens qui n'ont pas trouvé ce genre de boulot, qu'ils rentrent passer la nuit comme ça.
Les comités des déplacés lancent un cri d'alarme pour que l'aide humanitaire soit régulière en vue d'encourager les enfants à aller à l'école. Mais aussi la construction des hangars au site pour servir des salles de classe, son secrétaire.
Les enfants sont en divagation. Même si l'enfant part à l'école, il reste à court du chemin parce qu'il n'a pas mangé le matin. Alors, il part ailleurs pour leur encadrement. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire des hangars ici au site?
Pour rappel, la plupart de ces enfants déjà réalisé au moins 2 ans sans aller à l'école et d'autres même 5 ans depuis le début des conflits armés en 2017 dans cette province. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, 2 semaines après la réouverture du beach Ngobila, les activités commerciales tournent au ralenti. La traversée pour Brazzaville est conditionnée entre autres par la présentation du passeport. Du coup, les opérateurs économiques jadis habitués au laisser-passer se disent bloqués. Des détails dans ce reportage de Paul Matendo Mayamba.
Se rendre à Brazzaville pour les Congolais de Kinshasa n'est plus à la portée de tout le monde. Les conditions pour traverser sont renforcées. Selon des sources sur place, il faut détenir, entre autres, son carnet de vaccination et son passeport. Du coup, ceci rend difficile le travail de plusieurs opérateurs économiques, comme l'a dit l'un d'eux. Il n'y a pas assez d'activités économiques. Les commerçants ne traversent pas. Pour aller à Brazzaville, ils nous exigent les passeports. Pour nous, les commerçants, les passeports nous coûtent cher. Pour d'autres encore, les activités économiques ne peuvent se relancer qu'avec la reprise des trafics par bateau.
Le beach n'a pas repris avec les bateaux comme avant. Quand il y avait des bâtons, il y avait des circulations, les gens ne voyaient pas acheter puis vendre ici. Vraiment, il y avait les activités bien, on vendait un peu aussi bien. Mais maintenant, quand il n'y a pas de bâton, qu'il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas la ATC qui vient, donc on est comme ça.
À ce jour, la traversée ne s'est faite que par hors-bord, moyennant 100 dollars américains, signalent nos sources.
Économie toujours. Radio Okapi vous propose une série de reportages sur la descente aux enfers de l'industrie du textile en RDC. Selon un rapport de l'Institut national des statistiques de 2015, les industries congolaises en général tournent autour de 37% de leur capacité installée. Si nous considérons ces statistiques, à moins qu'elles soient actualisées pour nous contredire, l'industrie congolaise s'émeut depuis plusieurs décennies, y compris l'industrie du textile. 2 ou 3 décennies se sont écoulées, le wax congolais a quasiment disparu du marché local. C'est la conséquence de la faillite progressive des unités industrielles qui ont fait la fierté de la RDC entre les années 70 et 90. Explication Daniel Tambinzoni.
Le marché congolais est envahi par des wax venant des pays asiatiques dont la Chine et l'Inde, des Pays-Bas en Europe et des pays africains. En 1990, la RDC alors Zaïre comptait 7 usines de textiles, Utex Africa, CPA, Solbema, Sotexki, Saint-Exkin, Filtizaf et Novatex. 4 de ces 7 ont commencé à fermer les unes après les autres entre 1990 et 1996. Après 1996, seulement 3 industries du textile sont restées sur le marché. C'est notamment Utex Africa à Kinshasa, Sotexki à Kisangani et Saint-Exkin à Lubumbashi. Beaucoup d'analystes estiment que les raisons de la débâcle de l'industrie du textile congolais sont liées à la crise multisectorielle que le pays a connue durant les 30 dernières années. La baisse de la production du coton, la baisse du pouvoir de la population, la perte des marchés après les pillages de 91-93. La crise a conduit à l'importation massive de la friperie et des wax d'origine asiatique. C'est en 2005 lorsque les grandes puissances ont supprimé les quotas imposés par les pays industrialisés sur les importations de textiles en provenance des pays en voie de développement que la Chine et l'Inde ont profité de la situation pour dominer le marché mondial de textiles et du coup leurs produits envahir le marché congolais.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes en Tunisie. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans la capitale Tunis pour commémorer le 66e anniversaire de l'indépendance et exiger le renversement de ce qu'ils ont qualifié de coup d'État. Les manifestants ont brandi des slogans tels que « Abat le coup d'État », Liberté, liberté, l'état policier est fini, le pouvoir judiciaire est indépendant et destituer le président est un devoir. Fin de citation. L'agence Anadolu a rapporté que des milliers de personnes ont défilé depuis le quartier Bab Sadoun de la capitale vers la place du Bardo, siège du Parlement, en réponse à un appel lancé par l'initiative dénommée Citoyens contre le coup d'État.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Union RDC, coordonnateur des affaires humanitaires et coordonnateur de développement. Bruno Lemarquis vient d'effectuer sa première mission en Ituri depuis sa prise de fonction il y a 2 semaines. Il fait sa lecture de la crise humanitaire en Ituri et parle de stratégies à mettre en place pour une action efficace des interventions humanitaires en RDC. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Au moment de votre visite à Ituri, un nouveau camp de déplacés vient d'être attaqué en territoire des Djougou. On a tué 12 personnes. Quelle est votre réaction?
Alors tout d'abord, je suis au pays depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. J'ai beaucoup à apprendre pour comprendre un peu toute la problématique par rapport à la question. Une personne déplacée est toujours une personne déplacée de trop. Une personne déplacée, c'est le constat d'un échec parce que soit il y a eu un conflit, soit il y a eu des tensions entre des communautés, soit il y a eu des violences. J'ai pris connaissance de certains dossiers. Je vois que la République démocratique du Congo est un pays où il y a entre 5 et 6 millions de personnes déplacées internes, ce qui est le plus grand nombre de déplacés internes sur tout le continent africain. C'est un chiffre énorme. Parmi ces 5 à 6 millions, un tiers, 1,9 million, est dans la province de l'Ituri. C'est gigantesque. Donc chaque fois que moi j'entends qu'il y a eu des nouvelles attaques d'assaillants, de nouveaux massacres, etc., chaque personne déplacée est une personne déplacée de trop.
Alors vous avez visité ces week-ends les camps d'Englé, des Savo et des Djaïba. Comment évaluez-vous les besoins humanitaires dans ces camps et quelles sont les réponses immédiates à y apporter?
J'ai été vraiment impressionné par les gens qu'on a rencontrés. Ils sont extrêmement, extrêmement solidaires, qui se prennent en charge malgré les multiples difficultés. Également beaucoup de partenaires qui sont impliqués pour leur venir en aide. C'est le moment de remercier ces partenaires. Vraiment bravo à eux. Ils sont vraiment sur le front avec leur chapeau urgence, humanitaire, développement. Ils font énormément de travail avec ces communautés. Puis un grand remerciement à tous les bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de travail fait, mais il faut aussi prendre en compte la démesure. 1,9 million de personnes déplacées, c'est gigantesque, avec beaucoup de défis. La question de l'espace restreint à cause de l'insécurité. Il y a pas mal de problèmes de violation du droit humanitaire, avec des attaques qui ont été faites sur des structures sanitaires, sur des écoles contre des humanitaires. Ça, c'est très, très inquiétant. Donc ça, c'est des défis immédiats sur l'Ituri. Et puis, il y a des défis plus larges, notamment la mobilisation des ressources pour appuyer toute cette grosse opération humanitaire. Et donc, il faut tout faire pour qu'il y ait un plaidoyer pour que la RDC continue à attirer l'attention des gros bailleurs de fonds humanitaires, gros ou moins gros, avec toutes les autres priorités qu'il y a de par le monde.
L'attaque la nuit dernière, la nuit des samedis à dimanche, dans les territoires des Djougou prouve encore l'ampleur des défis humanitaires dans la région. Et quelle stratégie mettre en place pour une action efficiente et efficace des interventions humanitaires, mais aussi des développements en RDC?
C'est un cercle parfois vicieux. Il y a des problèmes de cohésion, avec des problèmes de violence, etc., des problèmes de groupes armés qui entraînent donc des crises humanitaires. Donc l'humanitaire n'est jamais la solution. L'humanitaire, c'est pour appuyer une situation où il y a de la souffrance. Et il faut toujours regarder la solution d'un problème plutôt que son symptôme. Donc la solution d'un problème, c'est les questions de réconciliation sincère entre les acteurs, les questions de cohésion sociale, de confiance entre les communautés, etc. Donc c'est tout ce qu'on mettrait sur le chapeau, la consolidation de la paix et la réconciliation. Sans cela, tout le reste, c'est du traitement des symptômes, c'est-à-dire ça ne règle pas le problème. Ensuite, il y a les questions plus général de développement. Ça sera très important de voir où en sont les indicateurs de développement en Ituri et quelles sont les tendances. Kofi Annan avait l'habitude de dire, il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix. Et il faut que les acteurs de l'humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix travaillent ensemble, en même temps sur les causes et sur les causes profondes qui créent les problèmes, les symptômes, et en même temps sur l'humanitaire. Donc je suis personnellement persuadé que même dans les crises profondes, il y a toujours un espace pour parler développement, pour parler consolidation de la paix et pas uniquement pour parler humanitaire.
Vous arrivez en RDC avec une vaste expérience de gestion dans les affaires humanitaires et la consolidation de la paix. Quelle analyse faites-vous de la situation humanitaire en RDC?
Je viens d'arriver, donc il faut que je réajuste mon logiciel personnel parce qu'ici, il semble qu'il faille rajouter 2 zéros par rapport à ce que je connais. Tellement tout est gros, la taille de ce pays continent. Donc c'est un pays qui est rempli d'opportunités, qui regorge de potentiel, de richesses, de sa biodiversité, de ses ressources naturelles, de sa population jeune. C'est un pays également qui est traversé par un certain nombre de dynamiques et de problématiques. En ce qui concerne la situation humanitaire, d'après ma compréhension jusqu'à présent, elle est multiforme, mais elle est composée de deux grosses composantes. Une composante qui est vraiment liée au conflit. Là, il y a vraiment des gens qui souffrent. Donc là, il faut des réponses humanitaires immédiates pour sauver des vies. Mais ensuite, il y a énormément de ce qui est classé parfois sous l'humanitaire qui dépend en fait du chronique, qui dépend en fait de déficits de développement. Par exemple, des indicateurs liés aux objectifs du développement durable qui sont dégradés. Et donc, il y a des taux de malnutrition, par exemple, il y a des taux d'insécurité alimentaire, il y a des taux de couverture sanitaire ou bien de certaines maladies, etc., qui sont élevés. Mais ça fait plus partie du chronique. Tout ce qui est du chronique, ce n'est pas forcément l'humanitaire qui résoudra le problème, puisque le problème est lié à des déficits de développement. Donc, et encore une fois, on revient à cette question de nexus. Voilà.
Monsieur Bruno Marquis, je vous remercie.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur des affaires humanitaires et coordonnateur de développement, s'entretenait avec Isaac Remoyope. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.